super matin ensoleillé. On en parlait justement, comment ça fait du bien avec Jacinthe Varel. On lui parle politique dans les prochaines secondes, mais quelques secondes justement pour vous dire qu'on est à 3 degrés et on va t'avoir un beau vendredi. 15 sera le maximum qu'on va atteindre cet après-midi. Par contre, on parlait aussi avec Jacinthe Varel de temps gris et de pluie. En fin de semaine, c'est sous les nuages, il y a un avertissement de pluie. Peut-être une accumulation, j'y vois la face, là, accumulation de 50 mm de pluie.
T'es non main gâché de party.
Je sais, mais tu sais, j'ai monté le moral avec le soleil d'aujourd'hui.
Ouais.
Là, je casse ça avec la pluie en fin de semaine, mais j'y remonte le moral.
Ah, ouais?
Avec un 18-19 degrés lundi sous le soleil.
Les gens vont aller voter.
Bon. Sur les... Oui.
Ah oui, il va faire beau.
Il va faire beau, on sort.
Faut qu'il fasse beau quand on a des élections.
Pas grave, qu'il y a une petite file, t'es pas sous la pluie mouillée.
Exactement. Ah non, et allez voter, remplissez vos bulletins de vote, ça prend un taux record de participation.
Sur les routes, Max, ça se passe aussi?
Ça va assez bien. Peu de rouge sur Capitale-Ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne. Sinon, il y a Pierre Bertrand, direction sud vers Le Bourgneuf ou c'est au rouge. Même chose, Robert Bourassa, sud vers le boulevard Le Bourgneuf, secteur des ponts, c'est super beau. Puis on parlait aussi, dans les dernières secondes avec Jacinthe F, d'ensoleillement Québec par rapport à Montréal. Puis elle dit, il me semble qu'à Montréal, il y a plus d'ensoleillement. Puis j'ai trouvé les statistiques. En moyenne, Montréal bénéficie de 50 à 150 heures d'ensoleillement de plus par année qu'à Québec. Fait que c'est pas énorme, mais Montréal, c'est à peu près 2050 à 2100 heures d'ensoleillement par année, alors qu'à Québec, on est de 1900 à 2000 à peu près.
Ils nous volent tout à Montréal. Ils nous volent le soleil.
Ouais. Ah oui, ils peuvent nous voler leur trafic aussi, là, tu sais, ouais. Ça, c'est correct, là.
Ouais, ça, on leur volera pas le trafic.
Non.
On leur donne notre tramway, ils veulent en faire un à l'est, si on peut leur laisser. Ah, ils nous volent tout. On leur laisse leur nid de poule, quoi qu'on en ait eu plus de nid de poule, nous autres, cette année. Tu vois ce qu'ils font, Montréal, avec nous autres? Ils nous envoient les nuages, les nids de poule, les projets de transport structurel. Ils nous envoient tout ça, Montréal. Mais ils nous envoient pas de pont, par exemple.
Non.
Gars, ils nous ont volé un pont. Ils ont le pont Champlain qui est rénové.
Ils travaillent le tunnel.
Ah, mon petit Montréal!
Qui va coûter pas mal plus... Allez, surprise, qui va coûter pas mal plus cher que prévu. Mais OK, des sujets pour un autre
Puis
moment.
Gars, ils nous ont envoyé un maire à gauche, là, comme leur mairesse à Montréal. On est en train de déteindre sur nous autres. Nous tirer vers le bas.
Jacinthe Varel, comment ça va?
Ça va bien, il faudrait faire une chronique Montréal-Québec à chaque jour.
Ouais, c'est ça.
Je savais que Jacinthe aimerait mettre ça dans ses lait, c'est pour ça que je l'ai faite.
T'as bien mis la table pour ça, là, ça c'est sûr et certain. Dernier blitz avant le jour de vote qui est lundi. Qu'est-ce que t'as marqué dans la dernière semaine là, qu'on vient de vivre de la campagne électorale?
C'est l'idée que ben il y a un renversement quand même. Il y a certains sondages qui ressortent que les conservateurs sont en train de reprendre un peu de force. Est-ce que ça va se concrétiser concrètement dans les résultats électoraux? Ça m'a quand même tracassé. Je me suis même dit, puis c'est pas la première fois que je le dis, là, mais dans les sondages, on voyait toujours Kamala Harris dans la campagne présidentielle en avance. Puis finalement, il y a eu une vague rouge qui a balayé tous les États-Unis d'Amérique. Je me dis, est-ce que ce regain-là qu'on voit dans les sondages des conservateurs, ça nous annonce possiblement une vague bleue qu'on n'aura pas vu venir?
Penses-tu?
Je le sais pas. Je le sais vraiment pas. C'est vraiment une question que je me pose, mais au moins, si jamais il y a une vague bleue, je vais dire, ah, ben j'y avais pensé, mais je vous la prédis pas non plus parce que de toute façon, je déteste faire ça, là, regarder dans une boule de cristal et essayer de voir l'avenir. On le sait pas, mais je me dis, ah, c'est une possibilité. Mm-hmm. Ça se peut que les sondages soient complètement passés à côté ou que les gens qui votent plus conservateurs ont moins répondu au sondage pour une raison ou une autre.
Hier, je regardais ça et je me disais, est-ce que les conservateurs vont manquer de temps? T'en penses quoi? L'impression que cette campagne-là durait encore une semaine et demie, deux semaines.
Ouais.
Le vent aurait vraiment tourné de bord.
Ouais.
Mais là, avec 7 millions d'électeurs, déjà plus de 7 millions qui ont voté par anticipation, ça va être dur en crime de changer le courant. Là.
C'est vrai que la lune de miel avec Mark Carney est en train de s'effriter, est en train de pâlir. Ça va être un
beau 4 ans.
c'est ça.
Pour le Québec, en tout cas, ça va faire mal.
Ben, c'est les fameuses sorties là, récentes par rapport à est-ce qu'il a menti sur l'annexation du Canada par les États-Unis. Hier, on a vu ça, que ça fait la manchette. Finalement, Donald Trump aurait dit dans la conversation téléphonique qu'il avait fait référence au 51e État, ce que Mark Carney avait démenti. En même temps, ça peut lui servir qu'une menace soudaine soit annoncée trois jours avant les élections. C'est utile pour le Parti libéral. Et il n'y a que le Parti libéral, techniquement, qui est au courant de cette conversation-là, de la teneur de la conversation. Donc, si ça sort maintenant, c'est pas fou de penser que ça sort parce que c'est une fuite voulue par les libéraux. Là. C'est une conversation entre le président Trump et Mark Carney. Fait que c'est pas le Bloc québécois, tout d'un coup, qu'aujourd'hui, il a appris le contenu de cette discussion-là. Ça vient des libéraux. C'est utile de montrer que finalement, il y a une réelle menace d'annexation des États-Unis trois jours avant le vote, juste pour imprégner ça comme il faut dans notre esprit trois jours avant les votes.
Ramener le CV.
Oui, c'est ça, pour ramener le CV. Mais le traitement médiatique a pris une autre ampleur. Hein, plutôt qu'avoir un traitement médiatique de panique puis de dire, finalement, la menace est réelle, il y a vraiment eu une prise de conscience que, peut-être qu'il y a une manipulation politique, peut-être que, finalement, Mark Carney n'est pas si élogieux que ça puis utilise des sales tactiques qu'on connaît depuis longtemps, depuis que la politique existe, c'est-à-dire de mentir, de cacher, de jouer avec l'information. Et ça, les Canadiens n'aiment pas ça. Donc, ça va peut-être jouer en sa défaveur. Mais c'est vrai qu'une semaine de plus peut-être que ça aurait changé la donne. Mais moi, j'ai confiance aux électeurs. J'ai confiance aux électeurs, malgré tout ce qui se dit, malgré les grandes tendances. Il reste que quand on parle à nos proches, quand on parle aux gens autour de nous et quand on voit dans l'histoire, les électeurs ne sont pas dupes. Alors, j'ai l'impression qu'on n'aura peut-être pas une si grosse vague rouge qu'on l'imaginait.
Jacinthe-Ève, avant la pause dans le segment « C'est quoi les chances? », j'ai demandé au gars si les conservateurs perdent, est-ce la fin de Pierre Poilievre comme chef? T'en penses quoi?
Ah, ben là, si vous me faites parler de ça...
T'as le droit, il y a des politiciens qui viennent au micro puis qui disent bah celle-là, j'y répondrai pas. On donne le droit d'être politicienne pour deux cents.
Non, je vais y répondre parce que ça m'achale. Ça me tracasse beaucoup. J'observe depuis le début de la campagne, même avant la campagne, parce qu'on était en pré-campagne longtemps. Hein, on savait que ça s'en venait, cette campagne-là. Donc, c'est une campagne qui a commencé bien avant là, qu'elle soit officiellement lancée. Et j'observe dans le milieu des conservateurs, dans le milieu médiatique aussi, j'observe franchement quand même un mouvement qui se prépare déjà à un nouveau leadership. Okay. Et ça, je trouve ça, peu importe dans quel parti ça arriverait, moi, le manigançage par en arrière...
Puis quelles sont tes observations, justement?
J'observe
ça
que...
Ça m'intéresse.
j'observe qu'il y a les conservateurs qui souhaitaient un Pierre Poilievre très combatif, qui l'ont vu s'assagir, qui l'ont vu devenir positif.
Souriant.
Oui, se présenter comme un premier ministre plutôt qu'un chef de l'opposition officielle. Puis quand t'es chef de l'opposition officielle, je parlais avec des gens qui me disaient « Oui, mais il chialait beaucoup, il était amer, il était en colère. » Mais oui, mais c'est ça son travail. Son travail, c'est d'être outré face aux politiques qui sont apportées par le parti au pouvoir. Donc,
ben oui, à l'Assemblée nationale, Marc Tanguay puis Paul Saint-Pierre Plamondon sont outrés de la décote.
Absolument. Marc, oui, exactement. Et puis, on dit pas que c'est deux hommes colériques toujours fâchés, mais leur travail, c'est de constamment critiquer, c'est d'être constamment outré, être indigné. C'est ça, le travail. Donc, c'est sûr que dans la campagne, il s'est montré sous un jour dans une nouvelle posture de potentiel premier ministre du Canada. Mais ça, ça a déçu des gens. Et il y a aussi ceux qui l'aiment pas et qui le suivent pas depuis la course au leadership lorsqu'il était dans la course avec Jean Charest. Il y a une mouvance conservatrice qui est derrière Jean Charest puis qui a jamais décroché de Jean Charest, qui pense encore que si c'était Jean Charest, le chef du Parti conservateur, on serait en avance dans les sondages au niveau du Parti conservateur.
On a reçu des textos à cet effet-là tout à l'heure.
Absolument. Et ces gens-là, moi, c'est ça qui m'enrage, là. C'est que je le vois comme une espèce de traîtrise parce que les jeux sont faits, le chef a été élu, c'est Pierre Poilievre, ralliez-vous si vous êtes conservateur. Et je parlais avec des figures conservatrices qu'on voit dans les médias récemment qui me disaient « Mais moi, je suis un vrai conservateur. » Je dis « Mais voyons, arrête. Dans ton travail au quotidien avec moi, t'es ces mêmes tribunes que moi, puis tu fais juste dire que c'est Mark Carney que ça prend parce que c'est lui qui va faire face à Donald Trump. Mm-hmm. Et je vois que tu fais une sale job à Pierre Poilievre. Ouais, mais c'est parce que... Mais je suis quand même un conservateur, mais c'est parce que... Mais ça, c'est de la traîtrise, c'est de l'hypocrisie, et c'est en train de s'effriter de l'intérieur. Donc, je sens déjà qu'il y a une mouvance, puis ça sort, là. On a semé l'idée dans les médias hier, je l'ai entendu sur une grande tribune. Ah, ben là, est-ce que son leadership va être mis en question? Il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis déjà longtemps. Et moi, je trouve ça dommage dans n'importe quel parti. Ça me fait penser au Parti québécois qui a subi le même genre de crise. Oui. Constamment qu'on remette en question Pauline Marois, qu'on remette en question les anciens chefs du Parti québécois. À tout bout de champ, il y a
tous
des mouvements internes.
Tous les chefs du Parti québécois se sont fait remettre en question.
C'est dégueulasse.
Même René Lévesque.
Oui, et ça, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça vraiment dégueulasse parce qu'on s'auto-détruit détruit de l'intérieur, on s'affaiblit de l'intérieur, on perd des joueurs en cours de route, on perd des alliances, puis on perd une force aussi. Mm-hmm. Parce qu'il y a vraiment, moi je l'ai vu même, ça s'est traduit dans des médias, des soi-disant figures conservatrices qui étaient dans les médias, mais qui bâchaient Pierre Poilievre, qui vantaient les mérites de Mark Carney. Ouais. Et ça donne l'illusion aux gens, ah ouais, il y a des conservateurs à télé, inquiétez-vous pas, il y en a des conservateurs. Ouais, mais t'es écoute parler, puis il y a clairement quelque chose de très néfaste ou toxique.
Donc, là, dans le vote, là, on parle du transfert du vote, du NPD aux libéraux. Mais es-tu en train de me dire qu'il y a un transfert de vote des conservateurs aux libéraux aussi?
Absolument.
Absolument? Absolument. Okay. Fait que c'est ce qui explique l'avance des libéraux à l'heure
actuelle. Absolument. Je suis convaincue de ça.
Parfait. Ouais.
À quel point la stratégie pour Pierre Poilievre, d'y aller en genre de one-man show sans vraiment... Tiens, encore aujourd'hui, on est à 3 jours du vote. On ne sait pas qui serait l'équipe de Pierre Poilievre. Ça a-tu été une grosse erreur, ça?
Ben, je lirais ça au sujet précédent. Quand tu sens que tes alliés de façade autour de toi sont peut-être des alliés plus de façade et qu'il y a une espèce d'encore d'alliance non complètement rompue ou d'alliance idéologique avec Jean Charest, par exemple, dans l'ancienne course à la chefferie, ben, t'es peut-être plus sur tes gardes parce que t'es tout totalement conscient qu'il y a des games qui se jouent à l'intérieur même de ton parti.
Il restera pas, peu importe.
Je le sais pas. Je connais pas à quel point il est aussi parce que tu sais.
Ça serait pas bon pour lui ni pour le parti de comment t'en parles qu'il y a quasiment une guerre à l'interne. Puis ça serait pas bon pour personne qui reste là.
Non, ça serait pas bon. Mais moi j'aime bien quand le bien triomphe ou quand l'honnêteté triomphe. Puis quand c'est la magouille qui triomphe ou la trahison, ça m'écœure. Donc j'ose pas dire ah oh, ouais ben va falloir qu'il parte. Non, vous m'entendrez pas dire ça.
Mais là t'as fait de la politique. T'es donc ben naïf. Comment ça tu penses encore que le bien va triompher?
Puis tu sais, moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que c'est le sauveur, c'est le meilleur chef du Parti conservateur. Mais à un moment donné, il y a eu des élections, il y a eu une course à la chefferie, c'est lui qui a gagné. Ralliez-vous, bon sang.
Je suis d'accord avec toi.
Et je dis la même chose dans les autres partis politiques, puis ça fait des années que je vois au Parti québécois ces magouilles-là, puis je me dis tout le temps, l'homme est dégueulasse. Quand il est question de politique, l'humain devient vraiment mesquin. À un moment donné, il faut se rallier aussi aux grandes tendances de notre parti, puis faire avec.
Hey, Jacinthe, plus de 7 millions de Canadiens ont voté par anticipation. Qu'est-ce que ça dit pour toi, ça, et les résultats qu'on va avoir lundi?
Ça dit que les gens avaient hâte d'aller voter. Ça dit que les gens avaient hâte de s'exprimer. Ils avaient besoin de s'assurer que leur vote allait être compté. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir un fort taux de participation aussi lundi. Je l'espère. Tu as dit qu'il annonçait beau en plus. Donc
18
ça va,
degrés. Let's go. On est au soleil.
En même temps, est-ce qu'il va faire beau partout au Canada? Parce que là, c'est d'un océan.
C'est vrai. On parle pas juste d'un vote ici au municipal.
C'est ça.
Mais au moins au Québec.
Oui, c'est ça. Mais je pense que ça va. Ça donne espoir qu'on ait un gros taux de participation. Et c'est ce qu'on souhaite, au moins, pour que peu importe le résultat lundi soir, peu importe le résultat, on a ressenti que la majorité des Canadiens sont allés voter, sont allés s'exprimer, puis qu'on a vraiment quelque chose de très, très démocratique, très, très fort, et non pas juste une minorité qui s'est exprimée, puis une minorité qui s'est tue.
Le Bloc québécois avait 33 députés avant le déclenchement des élections. Ça va être quoi pour eux, sauver la mise? Ça va être combien de députés? Puis... D'après moi, il n'en restera pas ici dans la région de Québec. Là, Beauport, Limoilou, puis Montmorency, Charlevoix vont leur échapper, je suis pas mal convaincu.
Oui, j'ai l'impression qu'on va avoir une bonne débarque du côté du Bloc québécois. Je ne sais pas combien de députés on va se ramasser, mais c'est franchement... J'espère que ça leur permettra de faire une grande remise en question sur ce qu'ils incarnent, ce parti-là, parce qu'il y a longtemps martelé qu'il était là pour les Québécois, mais en même temps, il se dissocie de grandes tendances que les Québécois souhaitent.
Bien, je te dirais présentement, il est pour les Québécois très à gauche.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un parti qui, on ne sait plus s'il milite plus pour l'environnement ou plus pour la souveraineté du Québec. Moi, je me disais, à quand le Bloc québécois qui propose une constitution du Québec puis qui martèle une constitution du Québec? Vous allez me dire, ouais, c'est pas de même, ça marche, mais si tu es là réellement pour l'indépendance du Québec, moi, je veux t'entendre parler à tout bout de champ de l'indépendance, pas à tout bout de champ de la planète puis de l'environnement. Ça, c'est le Parti vert.
À quand un Bloc québécois est meilleur en économie aussi?
Oui. Oui, parce que pour faire l'indépendance, hein, quand on part de chez nos parents, c'est parce qu'on a les poches un peu solides ou on a un job, on a quelque chose. Hein. Quand on s'émancipe, c'est parce que on le voit même, les gens qui pensent à se séparer, ils regardent le budget avant de partir. Hein, puis ils font comme moi, finalement...
Il y en a des fois qui restent parce qu'ils n'ont pas le budget de partir.
Ben, c'est ça.
Non, moi, j'étais pauvre, je suis parti sauver la planète.
On parlait de la suite des choses pour Pierre Poilievre après les élections pour les conservateurs. La suite des choses pour Yves-François Blanchet après les élections, tout dépendait des résultats du Bloc.
Et même Mark Carney. Ouais. Voyez-vous Mark Carney, chef de l'opposition?
Ah non, voyons clairement donc. Pas. Non, non, ben, c'est voyons clair.
Non, ça va brasser. On n'a pas fini de voir ça brasser. Effectivement, François Blanchet, je ne sais pas s'il y a quelqu'un déjà de près. Je ne sais pas si dans la mouvance du Bloc québécois, il y a déjà quelqu'un de près. Moi, je pense qu'un parti comme ça qui va avoir mangé une débarque, ça va être difficile de... Il va falloir d'abord que le parti se reconstruise puis que là, peut-être va émerger l'idée de changer de chef. Là, mais là, de toute façon, qui veut prendre d'un parti qui est en déroute comme ça puis se cherche un peu, j'ai l'impression. C'est mon impression de l'extérieur. Il y en a qui vont, je sais, recevoir plein de courriels.
C'est tellement contextuel en même temps. Autant que pour les conservateurs, moi, je disais tantôt que peut-être, puis ça, c'est avant d'avoir la conversation avec toi, là, mais... qu'en raison du contexte, Pierre Poilievre aurait pu dire « Non, non, mais là, c'est à cause des États-Unis, puis dans 4 ans, on va être ailleurs, puis je vais rentrer. » Ben le Bloc, ça peut être un peu la même chose, ouais. De dire « Ben là, c'est à cause des menaces de Trump qu'on prend notre débarque. » Fait que Blanchet aurait quand même ça comme outil pour rester.
Oui, oui, absolument. Puis c'est pas comme si on sent là, que lui, il y a quelqu'un qui est derrière ses talons à pousser puis à espérer la chefferie. Mm-hmm. Là. Il y a rien qui laisse croire qu'il y a quelqu'un qui est prêt à assumer la suite.
Rapidement, en terminant, t'es rassuré par le budget Carney?
Aïe,
c'est une bonne réponse. Quand t'as dit rapidement, juste le rire.
Le banquier aussi dépensier que le prof de théâtre. Faut le faire.
Oui, c'est terrible, mais je réalise qu'il y a des gens qui s'en foutent. De la dette.
Ben, t'as raison.
Il y a des gens qui s'en foutent.
Et pourtant, on est en période de décote au Québec. C'est ça qui est perturbant.
Mais j'ai trouvé quelque chose d'autre pour parler à ces gens-là puis les faire réfléchir quand même sur le budget présenté ou le cadre financier présenté par Mark Carney. C'est si vous n'êtes pas très interpellé par les générations futures puis leur laisser une dette, ça ne fait pas partie nécessairement de quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Sachez que plus on augmente la dette, plus le service de la dette nous coûte cher. C'est quoi le service de la dette? C'est les intérêts que ça nous coûte sur la dette. Et il y a des prêts qui arrivent à échéance et on doit renouveler nos prêts. Alors, les taux d'intérêt qu'on a négociés il y a 10 ans ou il y a 5 ans, souvent, ça arrive à échéance. Il y a des portions de dette qui arrivent à échéance et on doit renégocier. Et plus notre dette est lourde, plus notre cote peut baisser et que ça nous coûte plus cher. Juste le service de la dette, aujourd'hui, si vous vous foutez des générations futures ou de l'avenir, aujourd'hui, le service de la dette nous empêche d'acheter ou de construire des écoles puis des hôpitaux.
Oui.
Donc, on fait le choix conscient de ne pas construire certaines écoles, de ne pas construire certains hôpitaux. On met sur la glace certains projets qui nous serviraient maintenant, dans l'immédiat, dans le moment présent, parce que les 10 milliards, les 20 milliards, les 40 milliards que ça coûte notre service de la dette, on le donne à des agents, à des agences qui nous prêtent, à des prêteurs.
La décote coupe 10 nouvelles écoles au Québec.
Et voilà.
Calcul est simple.
Et c'est
calcul
la même...
est simple.
Puis,
donc,
puis très inquiétant.
Exactement.
Et c'est la même chose donc au fédéral. Quand on dit on veut plus de transferts en santé, on n'aura pas plus de transferts en santé si le fédéral est obligé d'avoir une dette qui coûte plus cher.
Jacinthe Varel, bon dernier blitz de campagne électorale. On s'en parle lundi?
Merci, à lundi, oui.
Bonne semaine.
Bye bye.
Profite du soleil aujourd'hui.
Oui,
là.
Profitez-en tout le monde.
Yes. On s'arrête 2-3 minutes.